Manitou, le drame de l'exil et ses visages, troisième bande.
Les hommes qui auront vécu d'après la Torah seront d'un côté, les hommes de l'autre, au jugement. Et l'argument d'Égoïm est très joli. Et l'argument d'Égoïm, c'est: est-ce que tu nous as obligés à nous de prendre ta Torah comme tu as obligé Israël? Oblige-nous, tu verras qu'on acceptera. Kafitar, Kagigit. C'est joli comme argument. Et alors, Dieu va leur répondre: écoutez, j'ai pas le temps. Une mitzvah, la soukha. Alors, Dieu va donner la soukha comme mitzvah universelle à la fin des temps. Vous savez d'ailleurs que depuis quelques années, à Soukhot, il y a un énorme rassemblement de pèlerinage chrétien à Soukhot. Les chrétiens, des hérétiques des églises officielles, enfin, c'est énorme comme pèlerinage. Et alors, seulement, voilà ce que va faire Dieu. Il va envoyer un soleil tellement chaud que personne ne supportera de rester dans la soukha. Et alors, ils quitteront la soukha en claquant la porte, dit la Gemara. Et alors, on va se poser la question: comment Dieu peut se conduire ainsi avec ses créatures? Puisque nous savons que d'après la halakha, s'il fait trop chaud, on a le droit de ne pas dormir dans la soukha. Enfin, de ne pas rester dans la soukha. Il dit: oui, mais ils ont claqué la porte. Ça veut dire que cette attitude consiste à dire: on ne peut pas vivre avec ta Torah. Alors bon, s'il fait trop chaud et qu'on ne peut pas être dans la soukha, on quitte la soukha, mais en le regrettant. Vous avez claqué la porte. Alors c'est cela qui va les condamner. Et est-ce que vous avez compris le problème? Et je crois qu'il y a ici des résonances théologiques de l'histoire de la théologie très profondes. C'est-à-dire, c'est vu comme si, c'est-à-dire, la Torah est impraticable et ça fonde le polynisme. Et de le dire en claquant la porte et en enlevant la kippa. C'est sympa, ok? Est-ce que c'est clair? C'est cette disqualification-là.
C'est parce
que... Et alors, attendez, laissez-moi finir. Donc, je demande instamment, sinon je ne pourrais plus revenir. Je suis arrivé à un stade où si on m'interrompt dans une phrase, j'oublie la suite. Je vous l'ai déjà dix fois. Alors, réfrenez-vous. Donc, alors, je ne sais plus de quoi je parlais. Oui, non, mais je vous en prie. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Bon, mais ça me reviendra. À quoi je voulais rattacher ça? Non, dans le texte. Quelle histoire? Ah oui, voilà. Voilà, ça veut dire que finalement, à la fin des temps, au jugement, on pourra juger qu'Israël. Parce que seul Israël acceptait la loi. Alors comment les autres seront jugés? Je vous propose une explication. Ils seront jugés sur la manière dont ils se seront conduits avec leurs juifs. Avec leurs juifs. Les juifs seront jugés d'après la loi. Et les goïms, comment ils seront jugés? D'après leurs juifs. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que les juifs ont une responsabilité colossale. Ils tiennent entre leurs mains le salut des nations. C'est pas une blague ce que je veux dire. Ça veut dire que... Et vraiment, je crois qu'il y aura des juifs qui seront à plaindre. Quand Dieu leur demandera, par exemple, les juifs allemands. Dieu leur demandera: est-ce que j'ai bien fait de créer l'Allemagne? Je ne voudrais pas être à la place des juifs allemands pour répondre. Mais il demandera aux juifs français: est-ce que j'ai bien fait de créer la France? Qu'est-ce que vous pensez de votre vie en France, vous les juifs? Voilà, oui, je vous ai donné des exemples un peu simples. Okay. Et alors, qu'est-ce qu'on répondra? Vous n'attendiez pas à ça. Bon, alors en tout cas, on se verra, oui. Et Ishmael?
Non, ah. D'être en exil chez les hommes.
Ou chez les 70 nations.
D'ailleurs, tu te souviens des deux numéros spéciaux consacrés aux juifs Esti a fait paraître l'un en 46.
Juste après la guerre.
Et l'un en 47.
Nahon.
Le deuxième en 47, c'était les juifs en nation. Il y avait l'article d'Emmanuel Reiss.
Nahon.
Dans lequel, justement, il a tiré l'attention sur le danger qu'il y avait si. Édom en Occident, il prend pas conscience de ce qui se passe. Il y a un Édom en URSS, avec qui justement il n'y a pas de dialogue possible parce qu'il n'y a pas la reconnaissance quand la Bible nous envoie un langage commun. Et ce langage avec les soi-disant communistes, puisque c'est aujourd'hui, c'est pas les communistes, enfin les sur les entreprises, il n'y avait pas de produit bien. Donc il y a là, je crois, peut-être une expression effective du fait que quand on ne sait pas, lorsque l'on n'accepte pas de parler de la Bible, même si ce n'est pas la même Bible,
oui,
le dialogue n'est plus possible. La deuxième chose, c'est que on peut s'empêcher de sauter en l'air lorsqu'on voit dans ce texte le rab, il y a là, parler de Esav, Achayim, votre frère, parce que, bien sûr, c'est un frère, mais il ne se conduit pas comme un frère.
Une petite phrase. Je ne voudrais pas faire ce que j'ai interdit de faire, mais une petite phrase. C'est que ça, c'est dans la pensée de Isaac. La pensée de Isaac, voilà, c'est, tu y arrives.
Et je pense que cette ambiguïté, je t'ai rapporté un jour, je me souviens, une explication extraordinaire de Rav Moshe Feinstein, je ne connais pas, de moi, il y a 3 ans, qui très simplement pose la question suivante. Nous voyons, lorsque une femme est enceinte de ses jumeaux qui se combattent dans son ventre,
oui,
et qu'elle va consulter à la yeshiva
de Schemleiber,
et on lui répond, eh bien, deux peuples sont montants, en ventre, etc. Et là, moi, je m'en ai dit, le verset de la Torah ne montre pas de réaction. Rivka est contente, elle est satisfaite. Comment cette réponse peut la satisfaire? Et il dit dans cette réponse extraordinaire qu'on n'y a pas répondu, deux frères sont dans ton ventre, mais deux peuples. À du moment où il ne s'agit pas de frères, et si tu me permettras de plagier, comme tu aurais pu dire, à du moment où Esaü est un faux frère,
ouais,
eh bien, elle n'est plus inquiète. Je me demande s'il n'y a pas une ambiguïté profonde, parce que comment un vrai frère pourrait-il accepter, même pour sauver de l'enfer, de prendre en exil, dans un exil pareil, un frère?
Tu me permets une hypothèse. En tout cas, il y a eu un oncle, Laban. Et Laban, on verra le verset de matin, si vous voulez. Et Laban dit, comment je vais te prendre comme esclave sans salaire, alors que tu es la chair de ma chair? D'accord, c'est ce que dit Laban. Ken,
Ahechata. Oui, ça dit ça.
Oui, non, je donne l'exemple de Laban. Il y a énormément d'humour, là. Il dit, d'accord, tu seras esclave chez moi, mais je te paye. Attendez, tu n'as pas fini?
La troisième chose, c'est peut-être, j'ai posé évidemment cette question, et c'est pas en 30 secondes qu'on va y répondre, comment peut-on parler de cela après la Shoah? C'est que Edom, dans la typologie que tu rappelais hier, du Maharal, c'est dans le nerf mitzvah que nous avions étudié ensemble il y a 10 ans, eh bien, Edom représente tout l'homme. Tu te souviens, on
est les récapitule les cadres.
L'ensemble. Et donc, ce n'est que à partir des hommes que peut naître Amalek
et Israël. Que après les...
Ça, c'est le Maharal le dit, mais je veux dire que tu parles de Amalek.
Entendu, c'est exact. Alors écoutez, ça va être l'heure. Oui, ça va être l'heure. La question venait demain matin. Alors on enchaîne.
Une petite. Est-ce que l'Église a eu connaissance de ce texte qui nous paraît de la dynamique?
Et écoutez, dans le temps contemporain, on s'est aperçu que l'Église n'avait pas connaissance de beaucoup de choses. de beaucoup de choses. Je dirais que dans l'immense chrétienté contemporaine, on compte sur les doigts de la main des Esaü auxquels pense le texte. Moi, j'en connais en France peut-être 1,5. Okay.
À ce propos, parce que c'est une chose dont j'ai depuis quelques temps, je suis frappé du fait qu'au Moyen-Âge, il y avait des chrétiens qui avaient une connaissance, en tout cas, sinon du sens, en tout cas du son des textes. Nous avons des textes qui ont été imprimés en traduction latine, oui, avant d'être imprimé à l'original.
Non.
Et je suis actuellement en rapport avec les Polonais. Je vais utiliser un problème concernant certains rapports judéo-chrétiens, je ne dirais pas lesquels, actuellement en Pologne.
On devine.
Je suis frappé par le fait qu'alors qu'il y a eu dans le monde contemporain, c'est-à-dire entre 1918 et 1939, en Pologne, en Lituanie, des géants de la pensée juive, c'est allusion lundi, n'est-ce pas, le grand Rogachev en 1936, ou Rabbi Meir de Twins, mouvement en 1926. Il y a au sein de l'épiscopat et des penseurs catholiques Il y a eu, il y a une méconnaissance absolument totale des géants qui ont vécu, le Svartsenès, qui ont vécu en leur sein. Il y a pratiquement eu très peu d'hébraïsants dans un pays qui comptait le plus grand nombre de juifs, à part les États-Unis au monde, et proportionnellement un pourcentage de juifs adolescentaires.
Est-ce que je peux en une phrase donner une analogie à un autre registre ? Actuellement, on est en train de découvrir les géants qu'il y avait en Afrique du Nord au siècle précédent. Les Juifs eux-mêmes les ignoraient.
Ça fait rien, je vais le dire, nous savons.
Hein? Ah, oui. Donc, alors à demain, et on décidera demain quel texte on va écrire. Le texte, c'est un texte du Maharal, beaucoup plus général. Le sujet général, maintenant, vous est connu. Et alors, j'ai choisi dans le Sefer Netzach Israël que le Maharal a consacré à. Pour comment définir ça rapidement, un couple de notions qui est Galut Geoula. L'essentiel de l'enseignement du Maharal à ce sujet, c'est que on ne peut pas comprendre de façon isolée des concepts qui nous ont été révélés ensemble. Alors, j'en arrive à notre sujet. Galut, on traduit par exil, et Geoula par délivrance de l'exil. Et j'aurai l'occasion, jeudi soir, en reprenant l'ensemble du sujet général, de vous rappeler un thème, de l'indiquer pour ceux qui n'ont pas encore étudié, un thème important, c'est que étant donné le caractère particulier de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël depuis l'origine et dans toutes ses dimensions, il est on est devant un piège du point de vue de la compréhension de cette histoire, étant donné sa bipolarité, il est inévitable que nous trouvions des écoles qui vont privilégier l'identité de la Galoute par rapport à l'identité proprement nationale, ou inversement des écoles qui font l'inverse. Mais que la véritable question, nous verrons ça d'ailleurs ensuite en détail, n'est pas tellement de se demander si la Galoute a une signification, une portée, une finalité. Et hier et avant-hier, nous avons étudié un texte un peu particulier, mais qui montre assez à quel point les maîtres de la tradition ont assigné à ce phénomène de la Galoute une portée métaphysique et pas seulement historique, extrêmement importante. D'autre part, si l'existence en tant que société nationale a une signification, mais la véritable question étant dans quelle époque de l'histoire nous nous trouvons. Il y a une collaboration de deux dimensions d'identité depuis l'origine de l'histoire d'Israël, vous êtes déjà habitué à cela, qui travaille à travers le plan de la Providence pour l'aboutissement messianique de l'histoire universelle. Et lorsqu'on se trouve dans des époques historiques où il peut y avoir une perplexité, un doute de savoir si l'on doit s'engager dans la dimension Galoute ou s'engager dans la dimension Géoula, alors apparaît cette perplexité qui est le propre de la société juive contemporaine aujourd'hui par exemple. Et donc le Maharal a expliqué essentiellement dans ce livre de Netzach Israël qu'on ne peut pas comprendre la signification positive du terme de Galoute si on ne le pense pas comme devant aboutir à une Géoula. De la même manière, j'aurai l'occasion aussi de mettre en évidence le fait que ceux qui vivent la Géoula, s'ils se coupent de ce qu'a été la dimension de l'histoire de Galoute, et bien se dévitalise du point de vue de la signification profonde de l'existence juive. Je parlais de façon formelle et abstraite maintenant, en simple introduction, mais nous allons cela assez en détail immédiatement. Alors c'est le chapitre 21 de Netzach Israël que nous allons commencer à lire, pour dire quel est l'intitulé que le Maharal lui a donné. Il n'a pas été édité dans cette édition du Netzach Israël. Le texte de base est un texte du Midrash qui indique que l'histoire universelle se développera à travers le temps de quatre royaumes, les Arba Malchuyot, et que l'histoire d'Israël va traverser l'histoire de ces empires. Je crois que le terme dans le langage contemporain qui correspond le mieux, tant dans la signification proprement sociologique que historique, à la notion de Malchuyot en hébreu, La traduction littérale, c'est les royaumes, les royautés, malchut, malchut au pluriel, ce sont les empires. Et la tradition talmudique et midrashique a perçu une ligne de lecture du développement de l'histoire universelle à travers quatre civilisations principales qu'on appelle les quatre, les quatre empires. Je vous le rappelle très brièvement, c'est la civilisation babylonienne, ensuite la civilisation perse, ensuite la civilisation grecque, ensuite la civilisation romaine. Et l'histoire d'Israël a traversé tout ce temps des Alba Malchut. La période de l'exil en Égypte, c'est la fin de la période babylonienne. Pour le dire de façon un peu plus précise, il y a d'abord Malchut Babel et l'identité d'Israël est sortie de Malchut Babel avec Abraham. Et reprenons toujours ce couple Galut Geula. La Galut s'est passée à Babel, au temps des Hébreux avant Abraham, et Israël sort de Babel Geula avec Abraham. Et puis ceci s'achève vraiment dans la constitution d'Israël comme société, la descendance d'Abraham, dans l'exil d'Égypte. L'Égypte ne se trouve pas située en Mésopotamie, mais c'est une civilisation de ce temps-là et du même profil et du même style. J'ai une fois donné comme exemple, tout à fait éclairant, que la civilisation américaine est différente de la civilisation européenne, c'est pourtant la civilisation européenne qui explique la civilisation américaine. Alors, Mitzrayim existe pour lui-même, mais c'est Babel qui explique l'existence de Mitzrayim. Est-ce que c'est clair? Voilà la première période. La deuxième période, c'est le grand empire perse, qui a été le véhicule d'une grande civilisation, et en ce temps-là, Israël a été en exil dans cette civilisation, et la sortie de cet exil, c'est ce que nous appelons en hébreu Shivat Sion, le retour à Sion, et au temps de Ezra et Néhémie, la période étant la période du livre d'Esther, la fin du canon biblique. Alors, ce Galut de Paras s'achève avec Esther et Mardoché, Ezra et Néhémie. Ensuite, il y a la confrontation avec la Malchut de Yavan, la civilisation grecque. Il y a un cas particulier, puisque Israël est déjà en dispersion, mais cependant, c'est sur la terre d'Israël même que le conflit entre Yavan et Israël, nous approchons de Hanukkah, c'est le problème de Hanukkah, a eu lieu, et finalement, la Géoula de cette Galut Yavan, c'est avec les Maccabées, avec rappelez-moi, la famille des Maccabées. La Hashmonaï. Et puis commence ce grand exil contemporain de la civilisation romaine, que nous appelons Malchut Edom. Maintenant, ces termes nous sont familiers. Et nous sommes censés sortir de ce Galut Edom avec l'État d'Israël contemporain. Voilà donc les Arba Malchut. Alors, le titre que le Maharal a donné à ce chapitre, c'est Explication sur le thème des quatre exils. Je vais uniquement rappeler des études d'hier et d'avant-hier un thème qui me semble important en relation avec le texte que nous allons étudier à partir d'aujourd'hui. C'est le fait que l'identité humaine, je suis toujours sous l'explication que dans le Maharal, l'identité humaine, c'est à développer des potentialités différentes à travers ces quatre malchut. Le Maharal explique en quoi il y avait une sorte de nécessité que l'homme traverse des civilisations différentes qui lui ont donné l'occasion de déployer, d'épanouir, d'exprimer, d'affirmer, de rendre irréversible dans l'héritage humain universel des valeurs de l'homme. Au niveau de Babel, c'est le Nefesh. Simplement le citer pour les plus avancés, si je prends trop de temps, donc je ne traduis pas. Au niveau de la civilisation de Babel, c'est le Nefesh qui s'est développé. Au niveau de la civilisation de Paras, c'est le roi. Et puis, au niveau de la civilisation de la Grèce, c'est le Sechel. Et apparaît la quatrième civilisation, celle de Rome, qui récapitule l'ensemble des forces de l'identité humaine. À la fois Nefesh, roi, Sechel. C'est l'identité Rome qui va disputer à l'identité Israël la globalité de la personne humaine, du sujet humain, c'est-à-dire le nom de Adam, tel qu'il devient Israël dans le récit biblique des engendrements, de l'engendrement de l'identité messianique. Nous étions en conflit avec le génie de Babel au niveau du Nefesh, au niveau des. Je ne vous ai pas traduit. Et ainsi de suite. Mais avec Rome, nous sommes en conflit sur la globalité de l'identité humaine. Voilà pourquoi l'exil, en général, dans la tradition rabbinique, va être toujours d'indice Edom. Quel que soit l'exil, c'est l'exil d'Edom. Historiquement, l'exil d'Edom commence il y a 2000 ans, parce que la civilisation de Edom s'est constituée il y a 2000 ans, mais depuis l'origine, tout exil, d'une quelconque manière que ce soit, c'est exil chez Edom. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bien. Alors, commençons le texte. Ahar, Shebeharu, Echa, Betrachim, Makonim. Après avoir expliqué dans les chapitres précédents, Shei, Efchar, il était impossible, la Rolam, existe un monde, Belo, Moshlan, Shel, Malchut, sans la souveraineté des empires, Shel, Haumot, des nations, c'est-à-dire l'humanité, ce sont les nations, constituent leur histoire, à des périodes données, dans des empires. C'est-à-dire qu'une parmi les nations prend la tête d'un rassemblement des nations et a tendance à imposer sa manière d'être homme. C'est dans son impérialisme que nous rencontrons souvent. Dans les chapitres précédents, donc, le Maharal explique qu'il était nécessaire. Oui, la formule qu'il emploie ici est une formule un peu indirecte. Iefchar Belo. Il est impossible que l'histoire humaine ne se développe sinon de cette manière. Il y a, si vous voulez, une sorte de cohérence dans le fait que des civilisations différentes se soient succédées, parce que c'était des génies humains différents qui devaient exprimer les tendances toutes nécessaires et authentiques de l'identité humaine jusqu'à l'aboutissement de cette histoire, de l'histoire de l'homme. Donc, Bro, Bli, Moshlan, Shel Malchut, Shel Haumot, Vehem, Arba Malchut. Et il s'agit de quatre empires. Mais Israël, or Israël, Haouma et Echida, c'est la nation unique. Et Malchut, Shel Yeshba, Hakrusha. C'est un royaume de la sainteté. Et le Maroc dit plus, Hakrusha et Loki, de la sainteté divine. Alors, une petite parenthèse de vocabulaire à cause du français. Ici, le mot divine n'a pas une indication de substantielle, mais c'est un adjectif qui signifie que c'est l'œuvre de Dieu telle que Dieu l'a voulu. Pour le dire très, très rapidement, on dirait que c'est suffisamment clair. Lorsque nous disons avec la tradition talmudique, midrashique, kabbaliste, que l'homme est le fils de Dieu, on ne veut pas dire qu'il est Dieu le fils. C'est l'opposé. C'est différent, ça n'a rien à voir. En quel sens on dira que le monde est divin, dans le sens qu'il est œuvre de Dieu. C'est un adjectif qui renvoie l'identité de substance au Créateur. Et je crois que la catégorie qui nous permettrait le mieux de penser ce que la tradition juive veut dire en employant ce terme-là, et c'est elle qui les a employés la première, c'est l'authenticité. À partir du moment où la créature devient authentique, authentiquement comme le Créateur a voulu qu'elle soit, alors elle sera appelée divine dans l'exposant de l'adjectif, parce que son créateur, c'est Dieu. L'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire que cette œuvre soit, elle, Dieu. Voilà le grand conflit que nous avons avec l'atmosphère, disons, de la théologie chrétienne sur ces problèmes. C'est le conflit que nous avons eu depuis toujours avec le paganisme. Je pense que c'est bien clair. Et alors c'est assez extraordinaire comme les questions de langue jouent une grande importance. Mais il faut se souvenir que la langue exprime l'identité. Vous connaissez la définition biblique de l'identité humaine. L'homme, c'est le Hayam Daber, c'est le vivant parlant. Lorsqu'on prend le langage au sérieux, la langue exprime l'identité de celui qui parle. Et par conséquent, ce n'est pas par hasard qu'un grec parle grec, qu'un hébreu parle hébreu. Enfin, j'ai l'air de dire la palissade, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a que l'hébreu qui parle hébreu, il n'y a que le grec qui parle grec. Alors en parlant hébreu, l'hébreu exprime l'identité hébraïque, et on notera à ce propos, ça ne peut pas être par hasard que la Bible était donnée en hébreu. Qu'elle soit traduite par la suite, c'est notre problème. Elle est traduite, mais justement traduite. Mais son identité, l'identité de ce message, l'identité de cette parole, c'est une identité hébraïque. Elle a son ordre propre, elle a ses catégories propres. De la même manière, quand le grec parle grec, eh bien, il exprime une manière d'être homme qui a les structures du grec. Ce que je dis là ne met pas du tout en question l'universel humain. Mais l'universel humain s'exprime à travers des identités singulières, et ces identités singulières s'expriment dans des langues. C'est pourquoi dans le vocabulaire biblique, vous verrez, surtout au chapitre 10 et 11 de la Genèse, chaque fois que la Torah parlera de la multiplicité humaine selon les nations et leur langage. Et elle ajoute, et leur pays. Il y a trois dimensions d'identité qui est indiquée là, qui est toujours ensemble. Est-ce que la civilisation future mettra ça en question? C'est un problème. Mais c'est l'homme, son paysage et son langage. L'homme, son pays et son langage. Et vous êtes déjà familier à tout cela. Et par conséquent, lorsque l'hébreu dit que dans le monde, il y a quelque chose de divin, la sainteté divine qui parle d'Israël, ça ne veut pas dire qu'Israël est Dieu. Ça veut dire qu'il est authentiquement créature de Dieu. Alors son identité est divine en tant qu'elle est l'œuvre de Dieu. Toutes les créatures sont l'œuvre de Dieu, mais elles sont plus ou moins réalisant le projet du Créateur. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Dès qu'on dit tout, il faut tout de suite y introduire la perspective des différences de proximité ou d'éloignement. Tout est dans l'existence. Mais il y a des parties de l'existence qui sont plus proches de l'existence et des parties de l'existence qui sont plus loin de l'existence. Mais tout a une finalité. Alors là, nous sommes sur un problème un peu délicat. J'espère que c'est quand même suffisamment clair. Et je partirai comme d'habitude pour rendre compte de la cohérence des postulats de ce texte, du consensus de la culture universelle. La culture universelle a, par une sorte de consensus dont on ne peut pas ne pas percevoir la massivité, a reconnu que l'identité Israël, parlons-en de manière théorique, abstraite, formelle, mais quand il en soit, est plus proche du projet divin que toute autre réalisation de la créature. Est-ce que c'est clair? Qui sont les témoins? Les témoins sont les non-juifs, ce ne sont pas les juifs. Les juifs ne se rendent pas compte de ça. Heureusement, parce que ça leur tourne de la terre, ça donne le vertige. Mais c'est l'islam, c'est la chrétienté, c'est beaucoup d'humanisme qui, lorsqu'ils sont conséquents avec eux-mêmes, et avec leurs propres sources et leurs propres postulats, reconnaissent que c'est de l'identité hébraïque qu'ils tiennent les catégories de l'authenticité. Encore une fois, je citerai ça encore une fois, il m'arrive souvent de dire en milieu chrétien que lorsque le chrétien dit qu'il croit que Dieu s'est fait homme pour sauver le monde, c'est pas exactement en ça qu'il croit. Il croit que Dieu s'est fait juif pour sauver le monde, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais c'est notre sujet. Est-ce que c'est clair? J'ajoute tout de suite que c'est pas du tout la croyance juive. Mais, enfin, les choses étant schématisées, il est bien clair que ce que dit le Maharal doit être compris en hébreu. Alors je reprends la phrase. Mais Israël, c'est la troisième ligne, Israël, Haouma Yechida, est la seule nation, ou la nation unique, et Malchut Sheyeshba Hakdusha Elohit. C'est une manière d'être homme, une société où se trouve, où est présente la sainteté divine. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de la Shrina, la présence de Dieu lui-même. Qui, dans certains temps, se dévoile, qui la plupart du temps est cachée, mais qui est toujours présente en Israël, c'est un autre sujet, mais il s'agit de l'identité d'Israël, qui a dans sa nature une identité de Kdusha, qui est divine parce qu'elle est l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est suffisamment clair, je peux avancer. Vehi, Mouvdelet, Minamalchut, Aordegilulim. Et elle est séparée, différente, dans sa séparation des souverains, des royaumes, des idolâtres. Ici, l'expression, c'est en déguilouline, c'est une expression extrêmement péjorative. Ceux qui adorent les abominations qu'on appelle les idoles. C'est plus fort que en déguilouline, simplement. Vézé, qui a malchut Yotel. Cela vient de ce que ces empires, Mithyahasi, Misadarola, Misadarola, se définissent par rapport à ce monde-ci. Je veux dire, par là, enfin le Mara veut dire, il me semble, par là, que cette différence va nous apparaître dans le fait que pour les nations du monde, et le génie, plus que culturel, le génie humain que leur société représente, leur civilisation représente, l'être, l'essentiel de l'être, le foyer de l'être, c'est ce monde. Que, en plus et d'autre part, il y a l'harmonique des valeurs de l'esprit, de la sainteté, du monde à venir, eh bien, ce sont des harmoniques de l'être qui est ce monde-ci. Alors que nous verrons, et vous voyez le lien avec le texte du Charles Léonard, hein, alors l'identité d'Israël est de l'ordre du monde à venir. Pour Israël, l'essentiel, c'est l'être du monde à venir. Et ce monde-ci n'est que le ce monde-ci du monde à venir. Je reviendrai dans les termes. Et pour ceux qui se souviennent peut-être, il y a longtemps, le séminaire qu'ils ont eu sur Caïn et Abel, eh bien, c'est un thème extrêmement parallèle. Pour Caïn, c'est lui l'être. Et autrui, l'autre, son frère, est en plus. Alors que pour Abel, l'être, c'est Caïn. C'est lui le fils qui est né le premier. Et lui se connaît comme étant le frère de Caïn. Et dès l'origine de leur prise de conscience de soi, toute une identité humaine différente va apparaître. Alors ils sont dans le même monde, dans la même famille, dans les mêmes péripéties et anecdotiques historiques. J'ai toujours quelque part un Caïn et un Abel. Mais ce sont deux mondes là qui sont simultanés. Caïn, encore une fois, est l'être de ce monde-ci, et Abel est de l'être du monde à venir. Et ils sont encore une fois dans les mêmes histoires, mais c'est pas du tout la même identité. Et alors Caïn peut construire des temples et offrir des offrandes. Je me réfère au texte, vous l'avez en tête. Mais c'est dans l'ordre de l'an plus. Alors que Abel, eh bien, lorsqu'il est confronté à la situation de culte, c'est-à-dire quelle offrande faire à Dieu, eh bien, c'est l'essentiel qu'il donne. Alors que Caïn donne ce qui est en plus. Ce qui est en plus peut être magnifique, peut être impressionnant, peut être cathédralique, mais c'est en plus. Tandis que chez Abel, le petit oratoire de la rue des Rosiers, c'est là que ça se passe. Ça, c'est l'essentiel. Voilà, c'est suffisamment clair. Bon, on avance. C'est ce que le Maharal veut dire. Qui a malchuyot a elu, he vityachasi mitzad haolam haze. Asher haolam haze, yeshbo shne devarim. Et dans la définition de ce monde-ci, il y a deux choses. Qui hu, olam gashmi. C'est un monde matériel. Asher yadoua. Ça, c'est de l'humour. Comme on sait. Comme c'est connu. Ou mitzad haze, en bokhtusha. Et par ce biais-là, par ce fait-là, il n'y a pas de sainteté en lui. Mais de toute façon, et cependant, bon, l'hébreu est un peu difficile ici, mais vous l'avez compris, il est impossible qu'il n'y ait pas en quoi que ce soit un peu de sainteté, un niveau de sainteté dans ce monde-ci, en quoi que ce soit, bidwar ma, chez elle à la barazé, car la chose n'est pas ainsi, clave, que mot chez Bernoulli et Mara, comme nous l'avons indiqué précédemment. Je vous donne une des références par lesquelles le Mara explique ça. Voilà ce qu'il veut dire. Ce monde-ci en lui-même n'est pas de l'ordre de la sainteté. Seulement, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas quoi que ce soit de l'ordre de la sainteté en ce monde-ci. Ça semble contradictoire, mais c'est ce que je vous ai expliqué. Là, comment le Mara l'a enseigné, c'est à propos de la première Mishnah du dernier chapitre des Pirkei Avot. Le Mishnah dit ceci, le monde a été créé par 10 paroles. Qu'est-ce que cela signifie, que le monde a été créé par 10 paroles? Est-ce qu'il n'aurait pas pu être créé par une parole? Et la Mishnah explique, c'est pour pouvoir punir les méchants, recommencer les justes, c'est-à-dire pouvoir poser le problème moral. Et c'est une Mishnah très difficile. Pour pouvoir punir les méchants qui détruisent le monde créé par 10 paroles et récompenser les justes qui maintiennent le monde créé par dix paroles. Mais c'est un peu difficile, et je ne veux pas prendre trop de temps, par le fait que si la signification de ce Krishna était que pour pouvoir punir et récompenser, alors Dieu a créé le monde par dix paroles, on ne comprend pas le lien, hein, on ne comprend pas encore, admettant formellement un lien de cause à effet, eh bien, au jugement, on pourrait plaider en disant, je n'ai pas fait de mal, le mal que j'ai fait n'est mal que parce que le monde a été créé par dix paroles, tu l'aurais créé en une parole, ce ne serait pas un mal. Vous avez compris, dans un ordre formel, mais le moral, comment d'ailleurs proposer cette objection, si on dit, voilà ce que veut dire la Mishnah. La Torah nous a indiqué que le monde est créé par dix paroles, alors qu'il est évident qu'il aurait pu être créé par une parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous du texte de la Genèse, et Dieu dit que soit, que soit, que soit. Dix niveaux d'être. Et c'est ensemble ces dix niveaux d'être qui font le monde. Le texte aurait pu être, on aurait pu indiquer que la réalité aurait été, et Dieu dit qu'il y ait un monde. Et alors, Maharal dit, c'est chaque fois qu'il y a l'exposant 10, c'est pour indiquer qu'il y a sainteté. Ça veut dire que le monde était une existence simple en elle-même, qui se ramènerait à une seule parole, eh bien, on pourrait plaider de la manière suivante. Lorsque celui qui a fait du mal a fait du mal, il n'a fait du mal qu'à lui-même. Celui qui a fait du bien a fait du bien, il n'a fait du bien qu'à lui-même. Mais dans le monde tel que Dieu l'a créé à travers dix paroles, c'est-à-dire au niveau de la multiplicité, alors le problème moral peut être posé. La relation à la valeur morale concerne une valeur extérieure à moi. Et si le monde a été créé par une parole, son essence serait identifiée avec son existence, il n'y aurait pas de place pour le problème des valeurs. C'est un tout autre sujet, je l'ai à peine résumé, mais c'est pour nous référer à cela. Il y a dans le monde quelque chose de l'ordre de la sainteté, bien que le monde en lui-même, en tant qu'il est matière, créature, est l'opposé de la sainteté, par définition. Le monde est l'autre que Dieu. Si la sainteté définit Dieu, alors le monde qui est l'autre que Dieu est défini par l'envers de la sainteté, ce qu'il appelle la matière. Et alors, dans la Raja Kabbalah, c'est ce qu'on appelle la couronne, Keter. La couronne est posée sur la tête et qui fait royauté et qui est signe de royauté mais qui ne fait pas partie de la personne qu'elle couronne. Et cette sainteté environne le monde, l'irradie, l'illumine, c'est à quoi fait allusion cette catégorie du Kete. C'est-à-dire, tout se passe comme si, pour que le monde existe, il faut lui retirer ce qui en ferait l'être de Dieu, et ce qui lui est retiré lui est donné en irradiation de couronne. Mais alors le monde peut exister. Alors il existe, ce monde, sans sainteté, mais il n'existe que grâce à cette sainteté qui le protège. Cette sainteté, c'est ce qui lui a été pris pour qu'il puisse exister en tant qu'homme autre que Dieu. J'ai parlé intentionnellement de façon un peu sibylline, pour que ce soit le plus clair possible, pour ceux qui sont habitués à ces concepts. Alors il y a quand même la sainteté dans le monde, là on va parler d'Israël, mais le monde en lui-même n'a pas de sainteté. Donc les civilisations sont profanes. Mais il y a quelque chose dans le monde qui est de l'ordre de cette couronne du monde, et c'est Malchut Israël. Alors, avant. Mais comme un commis, Echar, Sheloïa, Olamazebo, Madriga, Kadusha, Bidvarma, Sheina, Narazé, Kar, Klal, Kemoche, Bernou, les mâles. Qui, à Olamazé, Bamidashim, Bidvar, car ce monde-ci vient de Dieu, chez Ukadosh, qui est la sainteté. Mais Achar, chez Bamito, et par le fait qu'il vient de lui, Iefchar, chez Loïe, la Rolamazé, Itia Hasut et la Bivar. Il est impossible qu'il n'y ait pas dans ce monde un lien avec lui, d'où le monde procède. Il a employé ici Itia Hasut, lien, relation, un terme général et formel, pour ne pas poser le problème du mécanisme, de la manière dont le monde procède de Dieu, c'est-à-dire la notion de création. C'est un autre sujet. Et quoi qu'il en soit, si nous admettons que le monde procède de Dieu, alors, bien que la définition du monde pour lui-même, c'est qu'il est l'autre que Dieu, donc privé de sainteté, il est impossible qu'il n'y ait pas un lien avec la sainteté. Alors le monde en lui-même, c'est l'égoïsme, le lien avec Dieu, c'est Israël. Est-ce que c'est clair dans cette discussion? Mais, vous pouvez dire, c'est du délire, en fait, du délire d'orgueil juif. Imaginez, la civilisation universelle me prêtant attention à un texte pareil. Dire, mais ces juifs sont fous. Nahol, vous comprenez ce que. Enfin, c'est pas le mot. Je veux dire, c'est du délire d'orgueil. De dire comme ça tranquillement, ce qui était le marin en son temps, c'était l'ami intime des grands de la Renaissance européenne, c'était l'ami personnel. Il leur disait dans ses conversations autour d'une tasse de thé, je suppose, ben vous savez, vous, vous êtes les Goïms, vous êtes le monde, et nous sommes les délégués de Dieu sur terre. Alors, ça resterait énorme, encore une fois, et je me réfère à ce que je viens de dire il y a quelques phrases, si ce n'était pas les Goïms eux-mêmes qui disaient ça. C'est-à-dire que nous avons le consensus de la civilisation universelle, encore une fois, en caricature, défiguré par l'ingratitude. Mais c'est quand même cela qui est dit chaque fois qu'on se renseigne sur le témoignage porté par les grandes civilisations concernant Israël qu'ils ont rencontré à chaque civilisation. Mais vous voyez l'importance d'un grand livre comme le Kuzari. C'est Judas Lévi dans le Kuzari qui a bien posé ce problème. Avant de parler du judaïsme, il rassemble les autres. Et il leur demande, qu'est-ce que vous en pensez? Les autres, c'est-à-dire, vous vous rappelez, les Parsis, la religion zoroastre, le christianisme, l'islam et les philosophes. Et en fin de compte, on arrive au point de départ de l'enseignement du Kuzari, lorsque le chef des Khazars demande aux chrétiens, aux musulmans et aux autres, « Et d'où savez-vous ce dont vous parlez ?» Alors, tout se tourne vers le rabbin, dit « Demandez aux juifs ce qu'ils disaient. » Nahon, à quel point c'est énorme. Et c'est ça. Et c'est ça, que nous disons. Alors, non. Chez nous, Yavodabar, Midabar, rien ne vient de rien, aucune chose ne vient d'une autre chose. Imeno itiahasut, s'il y a un lien, une relation, et là, à lui, Vidbarma, en quoi que ce soit. Kemo, chez Ibaer, le malade, Amken, comme nous l'avons expliqué plus haut aussi. Enfin, dès qu'il y a une difficulté dans le raisonnement, vous m'arrêtez. La langue n'est pas trop difficile. Hein? Oui, c'est un autre hébreu que l'hébreu du Charlotte. Pour ceux qui étaient hier soir à la conférence de Mendelssohn, vous voyez ce dont il parlait hier soir. Hein? Là, nous avons affaire à un hébreu ashkenaz. Le texte d'hier soir, c'est un hébreu, le texte d'avant, c'est un hébreu sfarad. Bon, j'espère que vous arriverez assez rapidement à voir ces nuances. Michel Ejmo Chochma, celui qui a en lui la sagesse, Vedavarze Mevoa, et ceci est clair et éclairé, Ven Marchi Choto, et ne le contestera pas, Michel Ejmo Chochma, celui qui possède la sagesse. Ou Mipenezé à Olam. Ou Mipenezé, à cause de cela, à Olam Asher. Hu Baal Geshem, le monde qui est fait de matière, Yeshbo Bechina Nivdelet Bilti Gashmi, a cependant une dimension différente, non matérielle. Voilà donc ce qu'il faut découvrir. Le monde en lui-même, c'est la matière, donc pas de sainteté. Mais cependant, parce qu'il s'agit d'un monde créé par Dieu, la sainteté, il y a quand même dans ce monde de la matière une dimension autre qu'elle-même, que mondaine, disons, et qui est une dimension de sainteté. Ceci est clair, donc, ce que nous avons vu précédemment. Ou Bechinazot, Imisala Poel. Cette dimension de sainteté vient de l'auteur du monde, chez Univdal Minagashmi, qui est lui radicalement séparé de ce qui est matériel. Bechbar Lamazé Gamken, Bechinat Gashmi, et Neigia, dans ce monde-ci, la dimension proprement matérielle, Bézé Mitzada Nibra, et ça du côté du créé lui-même qui est matériel, de la créature. Ou Knegedze, Andou Baolam Shtebechinot, et c'est par rapport à cela sont apparues dans le monde deux manières d'être de l'homme, Shtebechinot Mechulakot, opposées l'une à l'autre. Les idolâtres, chez Moti Melagashmi, qui, c'est une expression qui vient souvent chez Maharal, noter le, qui sont portés vers, qui ont tendance vers le matériel. Bezeu Bechina Achat, c'est la première dimension. Béhouma israélite, mais la nation d'Israël, Haouma Kedusha, la nation sainte, qui est née de Bechina Achénit, et par rapport à la deuxième dimension. Chez Yeshba Olam, qu'il y a dans le monde, Bechina Achéla Olam, cette dimension qui convient au monde, Tzad Bechina Kedusha, en quoi que ce soit une dimension de sainteté, Bilti Gashmit, non matérielle. Bechach, c'est pourquoi. Yesh le Israël, la Torah et la Mitzvot, c'est à Israël qu'appartiennent la Torah et les Mitzvot. Vechol Devarim Elokim, et toutes les choses divines, Bilti Gashmim, non matérielles.